Vous écoutez On lit pour vous.
La loi qui criminalise la stérilisation forcée est-elle suffisante pour arrêter la pratique? Un texte de Catherine Desautels paru le 24 juin 2026 dans Le Devoir. Ottawa a adopté le 9 juin 2026 une loi qui criminalise la stérilisation forcée, une pratique dont sont victimes encore aujourd'hui des femmes autochtones. Mais est-ce que la loi sera suffisante pour décourager les prestataires de soins de faire des stérilisations sans le consentement des patientes? On va espérer que ça permette en tout cas de réfléchir à deux fois avant de passer à l'acte et de s'assurer que le consentement soit bel et bien obtenu de façon libre et éclairée, répond la professeure Suzy Basile, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT. Elle a d'ailleurs participé il y a plusieurs années aux audiences du Sénat sur le projet de loi et elle souligne le travail de longue haleine de la sénatrice Yvonne Boyer qui a porté le dossier. La loi stipule que la stérilisation sans consentement légal est considérée comme une blessure grave, une mutilation passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement. La loi donne maintenant la possibilité au personnel soignant de dénoncer auprès des autorités policières, souligne le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, OIIQ, Luc Mathieu. Le projet de loi qui vient modifier le code criminel, ça envoie un signal fort à l'effet que la stérilisation sans consentement, c'est inacceptable, que ça ne soit plus toléré, dit-il. Avant l'adoption de la loi, il existait des façons de rapporter la stérilisation sans consentement pour les professionnels de la santé, par exemple auprès de son supérieur immédiat, au commissaire aux plaintes et à la qualité et à son ordre professionnel, rappelle M. Mathieu. Il y a certes des mécanismes en place, encore faut-il qu'ils soient utilisés, soulève Mme Basile. Il semble y avoir une très forte loi de l'omerta dans le milieu de la santé. On n'a pas eu de dénonciation directe de membres du personnel de la santé envers d'autres. Plutôt, ce qui va arriver, c'est que certains membres, par exemple une infirmière, va encourager une femme à porter plainte en raison de ce qui vient de lui arriver, à titre de témoin. On a entendu quelques histoires, quelques « je dis bien », rapporte la chercheuse. Elle explique que les femmes autochtones ont mis en place leur propre système de surveillance, qui consiste à être accompagnées par la famille. Souvent, on va entendre le personnel soignant se plaindre de ça, de voir 10, 12, 15 personnes accompagner une personne autochtone à l'hôpital. Il y a une raison à ça. Premièrement, ça permet de continuer la perpétuation du réseau d'entraide naturelle qui existe en communauté autochtone et deuxièmement, de protéger la personne qui est hospitalisée pour s'assurer qu'il n'y a pas de violence qui lui arrive à elle non plus. Ça fait des heures avec le personnel soignant qui veut faire sa job, on comprend bien ça, mais en même temps, cette présence, cette surveillance, c'est les femmes elles-mêmes qui se le donnent, entre elles. Des stérilisations forcées récentes. La stérilisation forcée n'est malheureusement pas chose d'un passé lointain. Le Cercle des survivantes pour la justice reproductive, un organisme national autochtone à but non lucratif, estime que jusqu'à 15 000 Autochtones ont été stérilisés sans leur consentement depuis les années 1890, certaines aussi récemment qu'en 2025. Dans ses travaux de recherche, constitués de deux phases, Mme Basile a recueilli le témoignage de 132 personnes autochtones, dont 77 ont subi des stérilisations imposées. Le cas le plus récent de violence obstétricale remonte à 2023 et la stérilisation imposée à 2022. Les récits recueillis durant la phase 2 insistent davantage sur le rôle du personnel infirmier dans l'expérience des soins de santé. Plusieurs femmes ont raconté des interactions difficiles avec les infirmières, qui sont souvent les premières personnes rencontrées par les patients dans le système de santé. M. Mathieu admet qu'il faut continuer de défaire et déconstruire certains préjugés à l'égard des communautés autochtones. Il rappelle que l'OIIQ reconnaît le racisme systémique, qui est d'ailleurs l'une des recommandations du rapport de recherche de Mme Basile. Parmi les autres solutions, elle propose de réviser la formation des différents corps de métier dans le milieu de la santé et aussi de revoir les codes de déontologie des ordres professionnels concernés. Le Collège des médecins du Québec, CMQ, a été dans cette voie avec adoption d'un plan d'action incluant un préambule à son code de déontologie en 2024. Le Collège des médecins a quand même proposé quelque chose d'intéressant, un préambule à son propre code de déontologie, mais il faut aller au-delà de ça et vraiment revoir les articles précisément pour s'assurer qu'on ajoute des dimensions qui concernent spécifiquement les personnes Premières Nations et Inuits, commente la professeure Basile. Son rapport de recherche indique que les violences vécues se répercutent sur la santé psychologique, physique et sexuelle des femmes qui ont témoigné et elles laissent des séquelles indélébiles sur leur féminité et leur spiritualité, des piliers de l'identité en contexte autochtone. C'était « La loi qui criminalise la stérilisation forcée est-elle suffisante pour arrêter la pratique ?» Un texte de Catherine Desautels, paru le 24 juin 2026 dans Le Devoir.
Traduire la lumière. Une entrevue réalisée par Mélissa Véro, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Certains écrivains et certaines écrivaines ont allumé quelque chose en moi, ouvert un chemin. C'est le cas de Monique Proulx. Comme de nombreux étudiants et étudiantes du Québec, j'ai lu Les Aurores Montréal. Au cégep. Un quart de siècle plus tard, je ne rajeunis pas, je m'en souviens encore. Il y avait quelque chose de magique dans ce livre, d'à la fois simple et splendide. Un condensé d'existence mettant en valeur toute la fragilité et la grandeur de l'être humain. En 2022, j'ai eu le plaisir d'animer à la Maison de la littérature de Québec un entretien avec la grande autrice qui nous a également offert « Le sexe des étoiles »,« Homme invisible à la fenêtre » et tout récemment « Le bien ne fait pas de bruit ». C'est lors de cette rencontre que j'ai compris que si les personnages des Aurores Montréal m'étaient apparus si vrais et attachants, c'était parce qu'ils avaient pour mère une femme exceptionnelle, vouant un amour incommensurable à l'autre. J'ai compris qu'en vérité, Monique Proulx n'était pas qu'une grande écrivaine, c'est une grande humaine. Le destin a voulu que nos routes se croisent à nouveau en 2025. Mon roman, La nébuleuse de la Tarentule, était finaliste au prix des 5 continents de la francophonie et, comme Monique siège sur le jury depuis quelques années, nous nous sommes croisés à Paris lors de la cérémonie de remise du prix que je n'ai pas remporté. Mais j'ai gagné beaucoup plus. Une amitié avec une femme vive, curieuse, libre. Une femme généreuse qui, en privé, m'a fait des commentaires élogieux au sujet de mon livre. Le parfum capiteux des fleurs qu'elle me lançait m'a fait rougir de gêne. Ses compliments valaient à mes yeux tous les prix littéraires du monde. De quelle récompense a-t-on besoin quand Monique Proulx nous dit qu'elle a adoré notre roman? Le privilège des nuages. On comprendra que, lorsque la rédactrice en chef de la revue Les Libraires m'a proposé de pénétrer dans l'univers de Monique pour en tirer une sorte de reportage littéraire, j'ai accepté sans hésiter. Malheureusement, 4 heures de route séparent mon domicile du chalet où elle passe la majorité de son temps. Il était donc plus réaliste d'organiser une rencontre virtuelle qu'une visite en chair et en os. Dommage, car j'aurais adoré me rendre dans son repaire des Laurentides pour observer le monde à travers sa lucarne. Cependant, j'allais devoir me contenter de ce que la caméra de son ordinateur consentirait à me dévoiler. Des murs en lambris de bois, des fenêtres donnant sur les branches touffues des conifères, quelques étagères de livres. Mais ce ne sont pas ces livres. Ce sont ceux de mon proprio. Je loue le chalet. Ma bibliothèque est en partie à Montréal, en partie à la Minerve, où je possède un chalet d'été. Monique me révèle que ses tablettes à elle sont garnies de bouquins sur les étoiles, les insectes, les champignons, les mousses, les fougères. Sur les manières de les identifier, les cueillir, les cuisiner. C'est que Monique est une amoureuse de la nature. Elle aime l'eau, les montagnes, les plantes, les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Celle qui a longtemps eu des chats a appris à se passer de leur présence depuis la mort de ses deux derniers en raison de son mode de vie nomade. Elle apprend dorénavant à aimer les chiens. Son propriétaire et voisin a une chienne qui est un peu devenue la sienne au fil des années. Cette dernière l'accompagne souvent dans ses promenades. « Je n'ai juste pas le droit de la faire rentrer chez moi. Mais je le fais pareil, avoue-t-elle, espiègle. » Son rire d'adolescente de 74 ans inonde les haut-parleurs de mon ordinateur, se déverse dans mon bureau. Je fais intérieurement le vœu d'avoir la même énergie qu'elle rendue à cet âge. Sans doute en raison des aurores Montréal, livre profondément urbain s'il en est un, j'avais associé Monique Proulx à la ville, à son effervescence, à sa rapidité. Au contraire, elle est constamment en quête de lenteur et de silence. Je fais tout lentement. Je mange lentement, je marche lentement, j'écris lentement. La lenteur, c'est la seule façon de réussir à voir le hérisson sur le sentier, le huard sur le lac. Si elle adore contempler la nature, c'est entre autres parce qu'elle apprend beaucoup à son contact, dont à s'habituer à l'idée de la mort, puisque tout est transformation à la campagne. Elle me parle des choses qu'on remarque lorsqu'on s'éloigne des grands centres, me citant en exemple la lumière changeante de la mi-août, qui déjà annonce l'automne. En ville, ce détail nous échappe, parce qu'on n'a pas le même accès au ciel. Dans le bureau de son appartement typiquement montréalais, donc conçu sur le long, elle a d'ailleurs fait percer une fenêtre afin de pouvoir contempler le firmament lorsqu'elle travaille. J'écris et soudain passe une nuée de pigeons. Ça fait ma journée. Pouvoir voir les nuages est un privilège. Vous écoutez Mélissa Véro dans l'univers de Monique Proux, traduire la lumière, une entrevue réalisée par Mélissa Véro, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. L'instinct de la beauté. En éternelle optimiste, elle refuse de se laisser abattre par l'état du monde, la souffrance et la solitude en hausse, l'espoir et l'empathie en baisse. Non pas qu'elle soit insensible à tout ce qui passe, au contraire, elle y est extrêmement sensible. Il s'agit même de sa matière première. C'est la douleur humaine qui m'inspire. Je cherche à explorer comment on peut en sortir, comment on peut la transcender. J'ai toujours des perches à tendre à mes personnages, car je crois que tous les problèmes sont solvables. Et c'est de la nature que j'ai appris ça, que même dans la douleur, il y a de la lumière. À nouveau, cette lumière qui revient. C'est assurément le mot qu'elle prononcera le plus souvent au cours de notre discussion d'1h30. Telle une photographe des âmes, elle travaille avec cette fameuse lumière lorsqu'elle écrit. Écrire, c'est traduire la lumière en mots. Elle emploie également le terme « vibration » pour parler de ce qui nourrit sa créativité. Au début d'un projet de roman, je ressens la puissance de l'univers qui veut naître, mais sous forme d'énergie, d'émotion, de ressenti. Et mon travail consiste à transformer tout ça en mots. Toujours expressive, Monique n'hésite pas à gesticuler pour illustrer son propos. Elle forme un grand entonnoir avec ses bras pour représenter le processus de réduction par lequel passe cette énergie, ses émotions, ce ressenti. Puis, elle conclut son explication de façon tout à fait prosaïque. Après être passée dans le goulot d'étranglement, tout ce qui sort, bien souvent, c'est un tout petit mot, une petite crotte de constipation. La voilà qui s'esclaffe à nouveau comme une bambine et mon rire se joint au sien pour composer une symphonie printanière. J'adore sa manière d'expliquer sa démarche artistique avec une poésie chargée de grandes vérités philosophiques pour, l'instant d'après, lâcher une boutade enfantine. C'est que tout est question d'équilibre entre les opposés, chez Monique. Beauté et laideur, ville et campagne, réflexion métaphysique et blague scatologique. Je ne suis donc pas surprise d'apprendre que, depuis des décennies, elle pratique l'art d'harmoniser le yin et le yang en faisant du tai chi. Elle a commencé au début de la vingtaine, moment où la méditation est également entrée dans sa vie. Après avoir essayé à peu près toutes les techniques au fil du temps, elle en est venue à adopter une définition toute basique de l'acte méditatif. Je m'assois en silence, me dépose dans mon être profond, dans l'arrière-paysage de ce que je suis. Quand je dis qu'elle a le chic pour les formules poétiques, ces deux pratiques font partie intégrante de sa routine d'écriture. Le matin, avant d'entamer quoi que ce soit d'autre, elle doit se déplier physiquement, précise-t-elle. Après environ 40 minutes de tai chi, elle médite. Ensuite, déjeuner. Puis, vers 11 heures, elle migre vers son bureau où elle commence par lire 2-3 lignes d'un texte qui l'allume, la fait vibrer. Souvent, c'est du Christian Bobin ou du Nicolas Bouvier, dont les phrases font des étincelles. J'aime lire des choses qui me ramènent à la beauté, puisque c'est ça que je veux traduire dans mes propres livres. Je cherche à faire revivre l'instinct de la beauté. Elle écrit environ une heure et demie, puis reprend après le dîner jusqu'aux environs de 16 heures. « Ce sont des journées de paresseuse, » ricane-t-elle. « Je suis quelqu'un de plate, paresseuse et plate. » Je lui réponds que ça me prendrait un autre mot en P pour faire une bonne allitération. Prou! Lâche-t-elle du tac au tac. Prou! Paresseuse, plate. Ça ne brosse pas un portrait très flatteur ni très représentatif, à mon sens, de la femme énergique et rayonnante qui rigole de l'autre côté de l'écran. Mais je n'ose pas l'obstiner. D'autant plus qu'elle met en exergue une chose très importante, ne rien faire constitue une part essentielle du processus d'écriture. Il faut savoir être juste là, disponible, pour accueillir ce qui veut poindre. Parfois, je suis assise sur une chaise longue, en train de prendre du soleil, et mon chum me regarde avec un air narquois. Je travaille, que je lui rétorque. Mais c'est vrai, quelque chose avance, même quand on n'écrit pas. On sous-estime toujours le travail clandestin de l'écriture, celui qui se déroule même quand on fait complètement autre chose. Et Monique adore faire autre chose. Aller au théâtre. Elle a récemment beaucoup apprécié « Ne vous faites pas de soucis » présenté au Prospero ou au cinéma. Son dernier coup de cœur, Nina Rozza. Un véritable objet de beauté. Cuisiner et recevoir des amis. Il y a souvent beaucoup de monde autour de sa table. J'ai trop la faculté de dire oui à la vie, lance-t-elle. Il lui est par conséquent impossible d'écrire en voyage. Par exemple, lors de son plus récent séjour à Paris, elle a de loin préféré se promener sous les cerisiers en fleurs, s'arrêter sur des terrasses, voir des copains, que de se contraindre à l'écriture. Je refuse plus facilement des projets d'écriture que des projets de sortie. La littérature comme un feu de joie. Monique me confie qu'elle n'aurait probablement pas accepté de se livrer à un exercice similaire à celui que je réalise en l'interviewant. Elle ne sait pas trop si elle en aurait été capable. La grande Monique Prou, incapable de tirer le portrait d'une autre écrivaine? J'en doute. Mais Monique aussi doute. Souvent. Siège dans sa conscience celle qu'elle surnomme sa mère fouettarde, qui lui répète des affaires du genre « Je te l'avais dit que c'était pas le bon livre, le bon projet, la bonne idée. » Heureusement, elle a appris au fil des années à ne pas lui accorder trop d'importance. L'autre raison pour laquelle elle refuse généralement les propositions de collaboration, c'est qu'elle ne veut pas se disperser, en venir à manquer de temps pour ses propres projets. Celle qui a choisi de ne pas avoir d'enfant me demande comment, moi, je fais pour me consacrer à l'écriture tout en élevant 3 filles. Silence. Je ne sais pas comment je fais. La vérité, c'est que je ne le fais pas si souvent. J'écris, mais rarement mes projets à moi. Ceux des autres, plus payants, ont toujours la priorité, puisqu'il faut bien que je les nourrisse, ces 3 bouches-là. J'ai appris à faire la paix avec cette situation, cherchant à me rappeler que je l'ai en partie choisie. Toujours est-il qu'il me manque souvent cet espace de silence et de liberté où l'écriture devient envisageable. En ce moment même, je brûlerais d'envie de tout laisser tomber pour me plonger dans un des 1000 projets que j'ai mis de côté, faute de temps et de disponibilité mentale. C'est que la passion de Monique est contagieuse. Lui parler me rappelle que l'écriture a beau être un geste infiniment solitaire, les écrivains et écrivaines, et les artistes en général, appartiennent tous et toutes à une sorte de grande famille. C'est comme si on formait une énorme communauté, lâche-t-elle. Chacun de nous, tout ce qu'on fait, c'est d'entretenir une flamme immense. Et j'ai envie de la nourrir à mon tour, la flamme, de contribuer au magnifique incendie de la littérature. « Va brûler sur ta chaise », me lance Monique Hillard. C'est sa manière toute proustienne de m'inciter à m'asseoir à ma table de travail, à aménager de la place pour l'écriture dans ma vie. J'ai bien l'intention de lui obéir, puisque jamais je ne voudrais la décevoir. Puisque, quand je serai grande, je veux être Monique Proulx. C'était « Traduire la lumière », une entrevue réalisée par Mélissa Véro, parue le 9 juin 2026 dans la revue « Les libraires ».